Salut, c'est Romain, vous êtes sur From the Insight. On va parler transformation, conduite du changement, organisation du travail, comment orienter les efforts de chacun vers une vision commune, des enjeux d'actualité. Le future of work, c'est maintenant, et c'est sur From the Insight. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, je suis avec David Guérardeau. Salut David.
Salut Romain.
Je suis super content qu'on arrive enfin à se parler parce que ça va faire 2 ans hein, qu'on projette de faire cet épisode ensemble. Donc enfin on y arrive, c'est génial. Donc toi David, tu es chef de projet innovation et digital à l'URSSAF. Tu es notamment en charge de tout ce qui est open data et j'aimerais qu'on en parle ensemble. Écoute, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, te présenter ?
Oui, je vais bien. J'accepte la mission.
Super.
Donc moi, je suis chef de projet innovation et digital à l'URSSAF, comme tu le disais. Je travaille à la direction innovation et digital.
Ok.
Donc c'est une direction qui a été créée fin 2018 autour de 4 pôles.
Mmh.
Moi, je travaille dans le pôle Open Innovation. Effectivement, je suis en charge de tout ce qui est animation de la démarche d'Open Data. Mais on va retrouver dans ce pôle ce qu'on appelle les pitch contests. Donc là, c'est des startups ou des grands groupes qui vont nous pitcher leurs solutions, ce qui peut aboutir à des POC, à des proof of concept, à des tests,
D'accord.
des expérimentations. On va voir aussi la co-construction avec les utilisateurs. On va voir tout le programme d'intrapreneuriat aussi. Où, voilà, en interne, des idées émergent et puis on les teste, on voit jusqu'où on peut aller, si ça peut aboutir à des produits derrière. On a un pôle dédié à tout ce qui est acculturation et idéation.
D'accord.
Donc là, on va finalement sensibiliser l'ensemble des collaborateurs et des collaboratrices de l'URSSAF à des nouvelles façons de penser, à de nouvelles techno, un certain nombre de choses. On met la petite graine pour que ça puisse après se développer et faire des beaux projets derrière. Je disais la partie idéation, donc là, on fait émerger aussi tout un tas d'idées. On a un pôle dédié à l'intelligence collective et on va retrouver tout ce qui est design thinking. Donc là, on va soit débloquer des projets, soit en accélérer. Et puis, on a un studio UX. Donc là, bah, c'est tout ce qui est expérience utilisateur, revoir nos interfaces, améliorer finalement l'expérience des usagers des services de l'URSSAF, sachant qu'on a beaucoup de types d'usagers différents.
Mmh.
Et voilà, donc moi j'anime la démarche d'Open Data. C'est vrai que moi j'ai rejoint cette direction fin 2019 et ça fait déjà depuis quelques années que je travaillais à l'URSSAF. Moi à base j'ai une formation de contrôleur de gestion, j'étais maîtrise d'ouvrage sur un outil pour suivre les coûts de la DSI en méthode ABC.
Mmh.
Et puis dernièrement, bah, je viens de me former, j'ai fait un MBA en marketing digital à l'Institut Léonard de Vinci. Donc là, ça permet d'étoffer et d'augmenter un petit peu mon spectre de connaissances. Et puis voilà. Et puis, qu'est-ce que je
MBA
peux te dire un peu plus?
que tu as obtenu d'ailleurs. Bon, ben
oui,
voilà,
la raison
on en
fait aussi.
profite pour se féliciter.
Je peux
Bravo,
te dire la même
bravo.
chose.
Oui,
Hein.
oui.
Tu as bien travaillé aussi.
Non, mais je sais que c'était, enfin, je sais pour l'avoir vécu que c'est pas évident de reprendre les études comme ça en travaillant en même temps à côté. Donc, bravo pour ça. Pardon, je t'ai
Ouais,
interrompu du
merci.
coup.
Non, non,
Désolé.
non, mais merci, merci à toi. Je sais que tu as vécu ça aussi, donc tu sais ce que c'est. Effectivement, c'était hyper intéressant de voir un peu en mode 360 le digital, et ça permet d'accroître mes connaissances et ce que je peux finalement accomplir à l'URSSAF. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et puis après, un peu dans les choses un peu drôles que je fais à côté. Depuis 2014, je suis blogueur judo, donc j'ai une page Facebook, j'étais badge presse au tournoi international de Bercy, j'ai fait des partenariats avec des marques. Voilà. Et puis dernièrement, j'ai eu l'autorisation de la DRH de créer une micro-entreprise. Donc ça me permet d'être de l'autre côté de la barrière pour donner des cours. Là, je donne des cours à l'ISCOM.
Ok.
Et ça me permet de voir des choses et puis derrière, sur notre plateforme d'idéation, bah dire bah, oh, j'ai vu ça, je trouve que ça marche bien, ça marche moins bien. Et puis hop, je donne des idées en interne aussi.
T'es une espèce d'infiltré en fait. Tu t'es infiltré dans le monde des micro-entrepreneurs.
Après, j'étais déjà utilisateur des services de l'URSSAF parce que j'ai des enfants, donc j'utilisais aussi la page emploi. Et donc ça me permettait aussi en tant qu'utilisateur de donner des feedbacks en interne. On est très friands des feedbacks utilisateurs pour justement améliorer nos services et nos produits. Ça, c'est super important.
C'est intéressant ton parcours parce que, comme tu le disais, tu es initialement dans le contrôle de gestion.
Ouais,
Et quand on
exactement,
fait
c'est
du
ça.
contrôle de gestion, Dieu sait toutes les données qu'il faut traiter et assembler pour comprendre
Ah
des
oui,
événements.
Excel,
Voilà.
notamment. Après, maintenant, il y en a mieux, mais...
Et du coup, comment est-ce que tu t'es retrouvé à l'Open Data? Est-ce que c'est ce parcours de contrôleur de gestion qui t'a aidé à obtenir ce poste ou comment ça s'est fait?
Ah, c'est plus par opportunité.
Ok.
En fait, comme je disais, la direction innovation digitale s'est créée fin 2018 et courant 2019, elle est montée en puissance. Et par l'intermédiaire d'une collègue qui s'appelle Karen, on pose café, on discutait. Et puis, moi, je sais que j'étais très intéressé par tout ce qui était digital, par tout ce que pouvait faire la direction innovation. Et d'un échange comme ça, finalement, ça aboutit à un entretien avec la directrice de l'innovation digitale, qui est Carole Leclerc. Et au départ, en fait, j'ai été prêté de ma direction d'origine à la direction innovation digitale. Et puis finalement, de fil en aiguille, je suis resté. Et puis au début, j'avais un spectre avec différentes activités. Puis petit à petit, ça s'est recentré sur l'open data.
Parce qu'à l'époque, tu n'avais pas du tout d'expérience en innovation, c'est quand même un métier à part.
Bah, disons que on est plus sur des personnalités, des cultures, une envie de faire. Je pense que l'envie de faire, elle prime parfois sur tes connaissances. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir un esprit peut-être d'entrepreneur. Et je pense qu'il y a ce qui peut-être intéressait, c'est ce que je faisais à côté, avec peut-être mon blog ou avec tout ce que je faisais sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai pu faciliter des partenariats avec des écoles, dans des programmes d'open innovation, où voilà, je crois que c'était en 2020, il y a à peu près 150 étudiants d'une école qui était juste à côté, qui s'appelle Éthique, et qui ont travaillé sur des projets à nous, en mode voilà, un peu idéation, proposition, open innovation, quoi.
Ok, génial. Et tout ça, c'est toi qui l'a suggéré.
Bah oui, mais c'est aussi parce qu'on m'a laissé la possibilité de le faire. Donc ça, c'était super intéressant. On m'a laissé du champ pour tester des choses. Et c'est un peu l'esprit de la direction innovation digitale, un peu test and learn, qu'on véhicule à travers les conférences d'acculturation, mais c'est aussi un peu, voilà, c'est l'esprit de la direction. On
Ok.
teste, on fait des POC, ça marche pas, on apprend et puis on fait évoluer les choses.
Et donc, quand tu parles d'open innovation, en fait, tu fais parce que toi, donc, t'es dans le, t'es, donc, il y a quatre pôles dont tu parlais tout à l'heure, dont un pôle open innovation. Et du coup, quels sont le, c'est quoi votre scope en fait? Sur quoi est-ce que vous bossez en ce moment? C'est quoi vos projets? Je sais pas si tu peux en parler en détail, mais qu'est-ce qui vous différencie des autres pôles en fait?
Oui. Bah, on a, toi, comme je te disais, dans le pôle Open Innovation, on a déjà tout le programme d'entrepreneuriat. Donc là, ça va être voilà, des acteurs internes qui vont proposer des idées et ça peut déboucher à des produits derrière qu'on va pouvoir présenter. Le premier produit qui est sorti un peu dans ce cadre-là, c'est une application qui s'appelle Mon Page Emploi au quotidien. Qui facilite la relation entre les parents et les assistantes maternelles. Donc ça, tu l'as aujourd'hui sur les stores. Et du coup, là-dessus, il y a eu tout un travail de recherche utilisateur, de compréhension des besoins. Donc là, tu vois, on applique des nouvelles méthodologies type UX, quoi.
Ok, et ça
Donc il y a
c'est
déjà ça.
donc l'application c'est différente du site internet. Je te pose la question parce que j'utilise Page Emploi, mais je savais
Oui,
pas qu'il y
oui.
avait une appli du coup donc.
Oui, si, eh ben, si. Mais alors du coup, pour le coup, là, c'est une application, mais recentrée que sur la partie relation assistance maternelle.
Ok.
Donc, ça ne couvre pas forcément l'ensemble du spectre aujourd'hui. Après, peut-être demain, ça évoluera. Mais voilà, il y a un côté, on développe des choses, et il y a un côté boule de neige où on améliore aussi les produits et on teste les choses. Et en fait, dans ce pôle Open Innovation, il y a aussi le côté, comme tu disais, pitch contest, où là, on va plutôt... avoir une forme de porosité avec les nouvelles solutions, les nouveaux acteurs. Et quand on a des besoins, eh ben on va peut-être sur une demi-journée, sur une journée, on va faire pitcher des acteurs et ça va nous permettre d'avoir une meilleure connaissance de ce qui existe sur le marché et de pouvoir voir s'il y a des solutions qui peuvent être intéressantes à tester. Et dans ce cas-là, on passe à l'étape suivante du POC et après, ça marche ou ça marche pas. Ça dépend, c'est le principe du POC, quoi.
Oui, bien sûr.
Et
Pardon, je t'en prie.
Ouais, non, après sur la partie, moi qui me concerne le plus, la partie open data, là je vais plus être, comment dire, l'idée de l'open data, déjà il faut savoir une chose, c'est que depuis la loi pour une République numérique, la loi de 2016, c'est une obligation pour le secteur public de, quelque part, mettre à disposition ces données par défaut.
OK.
Il y a un certain nombre y a un cadre autour de tout ça, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Notamment, tu dois respecter le RGPD, le secret statistique, le secret des affaires. Voilà, il y a un cadre limite ce que tu peux partager en open data. Mais bon, c'est une obligation légale. Mais l'URSSAF, elle veut pas, enfin, souhaite pas se limiter à l'obligation légale. Et ça se voit par le fait qu'on est investi quelque part dans une solution technique. Nous, on utilise la solution d'Open Data Soft, qui est la start-up française un peu leader sur le marché de l'open data. Et on a un site web dédié. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les données qu'on met à disposition sur ce portail, finalement, derrière, tous les utilisateurs, qu'ils soient finalement internes ou externes, peuvent récupérer la donnée. Et la donnée, ils peuvent l'exporter sous différents formats. Tu as du CSV, tu as de l'Excel. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que tu as la possibilité d'avoir des API. La solution, dès que tu déposes un jeu de données sur le portail, bah, il est APIfié nativement, et donc tu n'as pas à développer une API spécifique et donc un coût particulier pour ça. Donc ça, c'est intéressant et ça nous a permis, par exemple, de répondre à certains besoins externes. Tu vois, par exemple, on a une grosse société d'intérim qui nous a contactés, qui nous a dit c'est bien, sur URSSAF.fr, vous avez un PDF avec les services de santé au travail. Moi, je m'en sers parce que je fais les déclarations préalables à l'embauche. Moi, j'en ai beaucoup, je suis une grosse société d'intérim. Est-ce que vous ne pouvez pas me faire une API? Bon, bah, alors moi, ce que j'ai fait dans ces cas-là, c'est que je vais voir. On a mis en place des correspondants open data dans chacune des directions métiers. Donc j'étais voir la direction concernée, j'ai dit, bah voilà, on a cette demande. La correspondante open data, la direction donc, qui s'appelle Aurélie, elle a été voir sa collègue qui était à côté, elle lui a dit, bah voilà, il y a ce besoin, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Et puis finalement, on a pu rapidement mettre le fichier à disposition sur notre portail d'open data qui s'appelle open.ursaf.fr. Et du coup, la société d'intérim, elle a pu récupérer les données via l'API. Et elle nous a envoyé un message, c'était super sympa parce qu'ils nous ont fait un petit retour en disant bah, on vous remercie, on n'a eu aucune difficulté, Dev, on fait le truc. Du coup, maintenant, ça nous permet d'améliorer la fiabilité de nos déclarations préalables à l'embauche. Donc, ça, c'est super intéressant quand tu as des projets comme ça.
Ouais, c'est génial. Justement, j'allais te demander les cas d'usage de l'open data. Si je comprends bien, vos données, elles sont en lecture, c'est ça? Est-ce qu'on peut imaginer se pluguer sur l'API pour automatiser cette déclaration, par exemple?
Alors ça, c'est un autre sujet. C'est effectivement, c'est un autre sujet, c'est qu'on a effectivement quelques API pour permettre à des portails de déclarer, notamment pour les auto-entrepreneurs. Donc là, je ne les connais pas toutes par cœur, mais si tu vas sur le site et que tu vas chercher API partenaire, tu verras qu'il y a un certain nombre d'API qui permettent à des portails finalement d'être l'interface pour permettre à leurs utilisateurs de déclarer. Et donc là, ça arrive directement en prod derrière chez nous.
OK.
Par contre, là, on n'est pas sur de l'open data, donc ça nécessite des accréditations en amont et tout ça.
Ouais, bien sûr. Non, super intéressant. J'aimerais revenir sur le couperet de 2016, du
Oui.
coup qui a rendu obligatoire en fait pour les institutions publiques de rendre leurs données open. J'ai du mal à me rendre compte, à t'écouter parler, en fait je prends conscience que l'URSSAF c'est immense et qu'il y a plein de services, plein de jeux de données, j'imagine. Comment est-ce que vous avez accueilli cette obligation? Est-ce que vous vous êtes dit mince, comment est-ce, par où est-ce qu'on va prendre le bout en fait? Parce que c'est, enfin j'imagine que c'est même un changement complet de paradigme. Peut-être qu'avant vous bossiez en silo et que du coup il n'y avait pas de communication sur les données. Comment ça s'est passé en fait?
Bah, en fait, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément connu de tout le monde, mais une des missions de l'URSSAF, c'est aussi de partager la donnée. Et elle le faisait déjà avant 2016. C'est-à-dire qu'on a toute une direction de la statistique qui publie des données voilà, sur le salariat, le nombre d'établissements. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup aujourd'hui, on est en mars 2023, il y a 95 jeux de données. La majorité des jeux de données proviennent de la direction statistique.
OK.
Donc il y avait déjà cette culture, en tout cas pour cette direction-là, de partager de la donnée, notamment en externe.
OK.
Maintenant, il y a eu d'autres directions qui partagent de la donnée désormais. On a fait une datavise sur le réseau des URSSAF et les chiffres clés associés. Derrière, il y a 13 jeux de données en open data qui sont associés. Donc ça veut dire 13 jeux de données qui peuvent être utilisés par nous dans le cadre de cette datavise, mais par qui veut. Et notamment, on a un gros jeu de données sur tous les sites URSSAF et les services associés. Et
OK.
ça, ce n'est pas la direction statistique qui l'a fait, c'est la direction du réseau.
D'accord, très
Donc,
bien.
et on a aussi en Open Data, par exemple, des référentiels. Comme tout à l'heure, je parlais des services de santé au travail pour la grosse société d'intérim. Voilà, c'est un référentiel. On a aussi un référentiel sur nos numéros de téléphone. Pourquoi pas demain avoir le référentiel avec tous les taux de cotisation pour permettre à chacun soit de faire des simulateurs, soit positeur de paye. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on réfléchit.
D'accord, très bien. Donc ça, c'est des projets qui sont encore dans le pipe, mais ça
Oui,
pourrait arriver.
en fait, il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Après, voilà, t'as des ressources qui sont pas non plus illimitées, donc il faut bien faire des choix à un moment donné entre ce que tu peux faire à un instant T ou pas. Et après, par rapport à ce que tu disais sur l'offre d'Open Data, c'est pour moi, il y a deux volets. Il y a parce que normalement, quand on fait de l'Open Data, on n'est pas forcément obligé de se dire cas d'usage. Tu peux aussi dire je mets de la donnée en Open Data et peut-être voilà, il y a une personne qui s'en saisira à un moment donné. On peut penser à ça, par exemple, dans la crise du Covid, où il y a eu les données de santé qui étaient partagées depuis longtemps. Et puis, à un moment donné, il y a une crise. Et puis, tu as Guillaume Rosier qui s'en empare et qui fait Covid Tracker. Donc, il y a des questions de timing. Donc là, il n'y a pas forcément toujours de cas d'usage quand tu pousses la donnée. Mais en tout cas, ça peut favoriser la création d'usage. Donc ça, on va dire, c'est le côté offre. Mais c'est aussi, je pense, intéressant de travailler sur le côté demande et de se dire, il y a peut-être quand même des cas d'usage qui existent et de se dire, d'aller se connecter aux écosystèmes pour comprendre les besoins et voir comment on peut y répondre. Donc ça,
OK.
c'est super important parce que des fois, j'aime bien dire que la démarche d'Open Data de l'URSSAF, elle ira aussi loin que ses utilisateurs le souhaitent. Parce que oui, on peut avoir des actions sur l'offre. Mais c'est aussi important d'avoir des actions sur la demande, parce que c'est pas l'open data, c'est pas juste mettre des données sur un portail, c'est vraiment une démarche plus globale d'interaction et d'open innovation pour le coup, de co-création avec les utilisateurs.
Tu faisais référence à l'instant à des référentiels. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer que chaque service, chaque métier, chaque mise à disposition de nouveaux jeux de données respecte ces référentiels en interne, je veux dire. Est-ce que vous communiquez sur les référentiels? Comment est-ce que ça se passe? Enfin déjà, c'est quoi un référentiel? Comment ça se présente? Sur quoi est-ce que ça porte? Et ensuite, comment est-ce que vous faites pour que chacun puisse les approprier et les respecter à tous les étages?
Ouais. Moi, ce que j'entends par référentiel, c'est quelque chose qui est vraiment déjà structuré. Imagine, tu as ton fichier Excel avec tes colonnes, tes en-têtes de colonnes. C'est toujours la même chose. C'est un truc assez cadré. C'est pas quelque chose qui, dans la structure en tout cas, bouge beaucoup. Donc ça, tu l'as, par exemple, j'évoquais tout à l'heure sur les services de santé au travail. Bon, voilà, tu as une structure. C'est toujours la même. Et puis après, c'est ton contenu qui bouge. C'est la même chose pour, par exemple, les taux de cotisation. Voilà, les taux, ils évoluent dans le temps. Ta structure, elle est la même. Après, tu vas avoir des nouveaux taux en fonction de la législation. Enfin, voilà, tu as quelque chose qui est assez structuré et qui n'est pas forcément en tant que tel, ne sert pas en tant que tel une analyse économique. Par exemple, on a des données qui sont plus économiques, qui vont donner une évolution sur le nombre de salariés, sur tel secteur, sur telle zone géographique, sachant qu'on a des données à la maille nationale, puis il y a certains jeux de données qui donnent jusqu'à la maille communale. Donc là, on est plus sur l'analyse économique. Un référentiel, il n'a pas forcément toujours une valeur en soi, mais il a une valeur par rapport à l'utilisation qu'on peut faire derrière
Oui, c'est
en
ça.
l'intégrant dans une application, dans un site web, dans un simulateur. Et donc voilà, c'est plus comme ça que je qualifierais un référentiel.
Et est-ce que les référentiels que vous utilisez à l'URSSAF sont les mêmes que ceux qu'utilise, je sais pas, la Banque de France ou d'autres organismes?
Alors là-dessus, je ne serais pas forcément le plus expert pour te répondre.
OK.
Mais l'idée de toute manière de l'open data, c'est vraiment aussi d'être dans ce schéma-là d'interopérabilité.
Oui, c'est ça, c'est exactement pour
Donc
ça que
ça
je te
c'est
pose la question, ouais.
ouais non mais ça c'est super important et ça on échange aussi avec la DINUM, avec les équipes de Tata.gouv. Ils ont par exemple un site qui s'appelle schema.datagouv.fr, qui recense un peu ces modèles, ces schémas. Donc ça peut être un bon outil pour essayer de s'assurer d'être interopérable. Après, les structures par exemple, des taux de cotisation, c'est un fichier qui est assez normé. Donc ça, voilà, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui est communément admis.
Ok. Ouais, et qui changera pas tout de suite parce que ça fonctionne dans l'état, en fait.
Oui. Bah après, c'est des choses qui sont faites pour être utilisées. Donc, en tout cas, pour les référentiels, il faut absolument que la structure, elle soit connue et elle soit partagée.
J'aurais une autre question sur l'open data qui va porter sur la fiabilité des données. J'imagine que entre le moment où la donnée est créée, entre le moment où elle est créée puis qu'elle est rendue disponible, il y a toute une étape de validation des données où on s'assure qu'elle est fiable. Comment ça se matérialise?
Alors ça, c'est. Alors, je ne suis pas dans les secrets exactement, mais ce que je peux te dire, c'est que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire
Ok.
que la direction, enfin, toutes les données statistiques qui sont sur le site OpenURSAF, je peux te garantir que la direction statistique, c'est la qualité, c'est vraiment leur sujet. C'est-à-dire que ils ne mettront pas sur le site des données à une maille qui mettrait en danger quelque part la qualité de la donnée. Et ça, c'est des échanges qu'on a parfois ensemble parce que dans la culture open data, parfois, on pourrait accepter une qualité un peu moindre pour des objectifs peut-être de machine learning ou pour toi des usages où on sait que derrière, les utilisateurs peuvent redresser la donnée. Ce n'est pas quelque chose, voilà, aujourd'hui sur lequel on va parce qu'il y a vraiment un souci d'aller vers de partager de la donnée de qualité. Donc, on a ces échanges-là avec la direction des statistiques qui ont vraiment à cœur de mettre uniquement de la donnée de qualité sur le site open.urssaf.fr.
Ok.
Donc,
Oui, je te pose la question par rapport aussi à la temporalité de la donnée.
oui, c'est pour ça. En fait, c'est le vrai défi de trouver un équilibre.
C'est ça, c'est ça.
Parce que plus tu vas partager de la donnée en open data, plus souvent ça va aussi générer de la demande pour plus fin, plus frais.
Exactement.
Et tu ne peux pas forcément toujours y répondre tout de suite, en tout cas, parce qu'il y a ces problématiques de qualité, parce que parfois, la donnée, elle est pas, comment dire, elle bouge. Si on prend le cas des déclarations que font les entreprises, bah, parfois, il y a des régularisations,
Oui, exactement.
il y a des
D'ailleurs,
corrections.
oui, c'est ça.
Donc si tu partages trop tôt, bah, le risque c'est d'avoir cette problématique que finalement ta donnée n'est pas suffisamment fiable parce qu'il y a des régules derrière.
Oui, ou alors il faudrait actualiser les régules en temps réel, tout le temps, en fait.
Oui.
Non, mais c'est un vrai sujet. Je te pose la question parce que j'utilise l'Open Data de la Banque de France. Et en fait, il y a un délai de quasiment 2 ans, en fait, entre le moment où ils éditent les fascicules sectoriels et le moment où tu peux les exploiter. Donc c'est vrai que 2 ans, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Tu vois, c'est aujourd'hui, ce serait les données de pendant le Covid. Donc en fait, on peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui à ce qui se passait il y a 2 ans. Et est-ce que tu sais, alors je sais pas si du coup ça te concerne directement ou pas, ou si ce serait plus le pôle statistique, qu'est-ce qui est mis en place pour accélérer justement ce process de qualité, ouais, des données?
Ouais, alors là, je vais peut-être faire Joker parce qu'effectivement, je ne suis pas dans le secret, enfin, dans toutes les mécaniques. Moi, ce que je pense, c'est que ça se joue aussi dans une relation, dans une co-construction avec les utilisateurs. Parce que ça doit être un dialogue pour dire, ben voilà, OK, le timing, il est peut-être pas suffisamment frais. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Et peut-être dans un dialogue, on peut peut-être essayer de trouver une solution qui convienne. Ça, c'est pour ça que c'est important pour moi d'avoir ces retours utilisateurs, ces besoins utilisateurs, pour qu'après on puisse voir en interne bah, qu'est-ce qu'on peut mettre en place ou pas pour essayer d'y répondre. Et donc, c'est pour ça que souvent, j'essaie d'indiquer en externe que c'est super important de nous contacter. Et comme ça nous permet d'identifier aussi des cas que peut-être nous on n'aurait pas vu. Hein, parce que nous, on a notre prisme interne, on voit les choses, mais peut-être qu'un entrepreneur qui voit nos données, qui voit les données de quelqu'un d'autre, il peut faire des maillages que nous, on n'aurait peut-être pas vu. Donc,
Donc, si on a des besoins spécifiques, potentiellement, on peut vous contacter directement.
oui, moi je reçois régulièrement, toutes les semaines, des demandes. Hein.
Ah ouais, ok,
Y a,
intéressant.
donc après, c'est soit des demandes de précision, soit c'est des demandes des besoins. Il y a différentes natures de questions. Mais si tu veux, sur le site open.rsf.fr, tu as un contactez-nous dans le footer, il me semble. Et tu peux envoyer un message et du coup, ça arrive chez nous. Et nous, après, on voit pour le dispatcher. Parce que comme je te disais, moi, mon rôle, c'est un rôle d'animation de la démarche. Donc, je suis un maillon de la chaîne. Et après, l'idée, c'est de rendre autonome toutes les directions. Donc, chaque direction a un correspondant Open Data. Et donc, moi, après, en fonction de la question, je vais rerouter au bon correspondant Open Data. Et si la question, elle concerne plutôt une région, il faut savoir que j'ai aussi des relais dans les URSSAF. Et la direction statistique a aussi ses relais. Donc, en fonction du type de question, eh ben, on va rerouter à la bonne personne pour essayer de répondre au mieux possible. Alors, des fois, ça va très vite parce qu'il suffit de déposer un fichier et c'est simple. Des fois, c'est plus compliqué parce que, et comme tu le dis, il y a des enjeux de qualité qui font qu'on ne peut peut-être pas répondre tout de suite. Tout de suite ou tout de suite publiquement. Donc, après, ça, c'est vraiment des enjeux de discussion.
Ok, super intéressant. J'aimerais rebondir justement sur cet aspect d'animation des équipes métiers. Parce qu'il y a une phrase qui m'a interpellé sur ton profil, je te le disais tout à l'heure. Où en fait, t'expliques que tu mobilises des femmes et des hommes autour de projets innovants. Et moi, je trouve ça intéressant d'avoir ton regard sur comment est-ce que tu fais pour animer différentes directions autour de vos objectifs communs d'open data. Quelles sont les méthodes que tu utilises, si tu en utilises, hein? Est-ce qu'il y a des outils qui t'aident à te structurer un peu? Comment tu coordonnes tout ça?
Ouais. Bah, déjà, la première des choses, c'est, si je te replante encore le décor, c'est, voilà, on a à peu près 15-20 correspondants au niveau métier, à peu près la même chose au niveau des URSSAF régionales. C'est quelque chose qui est encore relativement récent. Donc, tu ne vas pas pouvoir mobiliser tout le monde. Tu vas avoir un peu comme finalement, tout projet innovant, ta courbe avec tes early adopters. Et donc, tu vas travailler peut-être au début avec quelques acteurs et au fur et à mesure, je pense, ça va faire boule de neige. Donc, nous, déjà, on a une force, c'est qu'on a une direction des statistiques qui a déjà l'habitude de partager de la donnée, qui a déjà l'habitude de faire des publications. Et donc, on a cette force-là. Donc, déjà, on a quelque part nos early adopters
Ouais, c'est un vrai,
présents.
c'est vrai que c'est une vraie force d'avoir d'emblée toute une équipe qui est en charge déjà d'éditer les données. C'est vrai que.
Voilà, donc il y a déjà ça, et puis après, on a les autres directions. Et donc là, après, l'idée, c'est un peu aussi du test and learn dans l'organisation. C'est-à-dire que au tout début, je faisais des points de 30 minutes avec tous les correspondants. Au début, j'avais que les correspondants des directions métiers. Et je faisais des 30 minutes toutes les 2-3 semaines, dans un rythme assez régulier pour faire des points.
Mais du coup, c'était. Pardon, je t'interromps,
Ouais,
David.
non, vas-y.
Quand tu dis faire un point de 15 minutes toutes les 3 semaines, c'était par rapport à quoi? Vous aviez des objectifs? Vous faisiez un point sur quel est l'état d'avancement vers cet objectif? Ou une liste de tâches? Comment ça se matérialise?
C'était effectivement, il y avait de ça, c'était plutôt état d'avancement, échange sur quels étaient potentiellement les jeux de données que la direction pouvait finalement mobiliser. Voilà, c'est des échanges de ce type-là pour essayer de. Et puis aussi de comprendre aussi les besoins ou les difficultés. C'est-à-dire que voilà, mon rôle, c'est d'accompagner. Donc, du coup, c'était aussi d'essayer d'identifier s'il y avait des freins, des difficultés pour pouvoir trouver des solutions. Et ça pouvait aboutir à des présentations dans les codires de chacune des directions, de voir avec telle ou telle direction pour un accompagnement spécifique, en s'appuyant par exemple sur la direction des statistiques. Donc, vraiment, c'était collaboratif. Donc ça c'était un temps. Après, on avait aussi des points ensemble. Et puis, au bout d'un moment, je trouvais que c'était plus forcément pertinent ou que ça marchait moins bien. Donc là, on a pivoté quelque part dans notre manière de fonctionner. Là, maintenant, ce que j'ai mis en place, c'est les lundis et les mardis, j'ai des guichets ouverts. Donc
OK.
j'ai 2 fois 45 minutes. Et ce que je leur dis, c'est moi, je suis là les 15 premières minutes. S'il n'y a personne, bah, je ferme le point. Et s'il y a quelqu'un, bah, on échange sur la problématique que vous avez et on voit comment on peut y répondre.
OK.
Et on a aussi tous les 2 mois un point où on est un peu plus ensemble. Mais c'est pas dit que je ne bouge pas à ça. Donc on est vraiment dans un quelque chose où on essaye d'être évolutif et de voir en fonction de comment ça fonctionne moins bien, de faire évoluer notre mode de fonctionnement en interne. Parce que l'objectif, c'est de mettre à disposition de la donnée et de rencontrer, enfin, mettre à disposition de la donnée, donc ça c'est le côté offre, mais c'est aussi d'aller au-devant des écosystèmes pour comprendre leurs besoins. Et ça, on l'a fait, par exemple, l'URSSAF Midi-Pyrénées a fait un atelier avec des startups et des incubateurs en 2 temps. En premier temps, pour présenter la démarche, puis en deuxième temps, on a fait un atelier d'intelligence collective
Ok,
pour comprendre les besoins.
super. Du coup, je reviens un peu en arrière encore, hein,
Ouais, vas-y,
pardon.
vas-y.
Alors, tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'en fait, il y a beaucoup de sujets, mais que les ressources sont pas illimitées. Donc, il faut. Je te vois sourire. Donc, du coup, il faut prioriser. À quel moment est-ce que vous prenez la décision de qu'est-ce qu'on priorise et comment est-ce qu'on transmet ces priorités aux équipes? Est-ce qu'il y a une roadmap qui est éditée pour l'année, par exemple, bah voilà, nos objectifs pour cette année, c'est de faire d'avoir ce jeu de données dispo, celui-ci qui va se connecter avec tel service. Qu comment ça se passe en fait? Si on monte d'un cran par rapport à l'animation des équipes, tu les animes autour de quels objectifs et comment est-ce qu'ils sont définis ces objectifs?
Alors, sur les objectifs, aujourd'hui, on n'en est pas encore à avoir tellement de demandes qu'on est obligé de choisir. Mais c'est ce que j'aimerais, tu vois, qu'on arrive à ce stade-là, parce que ça voudrait dire qu'on a suffisamment de demandes d'utilisateurs pour justement être amené à se poser des questions. Après, je sais que la direction des statistiques, eux, ils ont leur propre, comment dire, leurs propres travaux internes pour justement prioriser parce que effectivement bah voilà ils ont différents sujets à traiter après sur les objectifs on est plutôt comment dire on part à la recherche des jeux de données voilà, on avait fait aussi par le passé un petit travail de cartographie des données pour essayer d'identifier quels pouvaient être les jeux de données intéressants à partager
Ça, c'est un
donc on
sujet
a
aussi, hein. C'est clair que cartographier les données, c'est
Oui, ben,
complexe, c'est complexe.
on s'était fait accompagner à l'époque,
Ok.
sachant que ce n'était pas une cartographie qui avait une vocation était exhaustive, mais en tout cas, lister un certain nombre de jeux de données qui pouvaient être intéressants à partager.
Ok.
Donc on a ça en tête, donc ça on pousse, mais après on essaye aussi de voir par opportunité, quoi. Donc, je te disais tout à l'heure, on a eu une demande externe qui nous a permis un peu d'être levier pour avancer. Donc après... On a quelques jeux de données où on se dit bah ça peut être intéressant et puis on est en train de travailler dessus. Maintenant, je n'en suis pas à un stade où j'ai tellement de jeux de données que je suis obligé de faire des choix. C'est plutôt on va essayer de rendre autonomes les directions pour qu'elles-mêmes, elles définissent finalement leur roadmap pour pousser de la donnée.
OK.
Et elles sont, enfin, en fonction des directions, on teste des choses. Tu vois, par exemple, ce qui était intéressant, on a eu la direction des ressources humaines qui a publié un jeu de données sur les différentes modalités de télétravail.
D'accord.
Donc ça, c'était intéressant parce que ce n'est pas une donnée économique et ça nous a amené à réfléchir à tout un tas de sujets sur l'anonymisation des données. Donc pour te répondre, aujourd'hui, on n'a pas en fait aujourd'hui une sorte vraiment de roadmap à se dire. Il faut absolument ça, 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 même si on a des idées en tête, tu vois. On a quelques jeux de données qu'on a en tête, sur lesquels on essaie de pousser. Mais après, voilà, on avance chemin faisant. Parce que des fois, tu as des obstacles, tu as des questions qui émergent. Et puis, on s'appuie aussi beaucoup sur les questions externes.
C'est intéressant parce que finalement, donc il y a l'objectif global de l'URSSAF qui est de favoriser l'open data. Et ensuite, il y a chaque direction qui s'approprie ce sujet et qui va choisir de, parmi les jeux de données dont elle dispose, quels sont ceux qu'elle va pouvoir mettre en avant. Et c'est elle-même qui va finalement sélectionner, c'est bien ça. Et toi, du coup, tu viens animer un peu toutes ces directions pour les aider dans leur démarche.
Oui, et puis ce qu'on fait aussi, c'est que en fonction du niveau de sensibilité de données, on va monter un petit comité ad hoc avec le DPO, le responsable juridique, la personne de la communication, pour se dire, bah voilà, est-ce que sur des jeux de données sensibles, est-ce qu'il y a un sujet, quoi? Typiquement, ce que je te disais tout à l'heure sur les données RH, on a eu ce moment où on s'est réunis parce que voilà, les premières propositions n'étaient pas suffisamment agrégées d'un point de vue anonymisation des données et il pouvait y avoir un risque de recoupement. Donc là, on échange pour essayer de comprendre quelle est la meilleure manière d'anonymiser, sachant que bah, l'anonymisation parfaite, elle n'existe pas, il y a toujours un risque. Donc on est plutôt dans une question de maîtrise des risques. Voilà, donc en fonction du sujet, par exemple, typiquement, un référentiel qui est déjà publié, bon, bah voilà, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu de se réunir sur la question de la sensibilité de la donnée. Elle existe déjà publiée. C'est juste le format qui n'est pas forcément toujours le plus opportun, ou en tout cas, le fait de le mettre en open data lui donne des fonctionnalités en plus. Donc, on adapte en fonction de la data, quoi.
Ok, super. David, donc toi, tu as écrit une thèse hein, sur tout ce qui est open data.
Alors, ce n'était pas forcément open data, parce que c'est en fait pour te dire la thèse professionnelle que j'ai faite dans le cadre du MBA. Donc, elle s'appelait L'avenir appartient à ceux qui partagent tôt, pourquoi et comment co-innover avec les données.
Ok,
Donc,
d'accord.
j'étais pas forcément que sur la partie open, parce que si tu prends l'open data spectrum de l'ODI, il y a vraiment tout ce panel tu pars de la donnée complètement fermée qui est interne jusqu'à l'open data, et puis tu as des variations entre de données partagées entre peut-être plusieurs acteurs.
Ok. Et donc je reviens du coup à ta thèse. Donc c'est comment co-innover grâce aux data, grâce à l'open data. Mais ça, c'est du coup c'est un sujet que je trouve intéressant parce qu'il y a certes il y a la donnée qui existe, mais le plus intéressant c'est de la faire vivre cette donnée. C'est qu'est-ce que t'en fais en fait. Donc si on s'extrait maintenant de l'URSSAF et que tu prends un regard plus global sur la co-innovation. Quel regard est-ce que tu portes justement sur cette co-innovation? Quelles sont les opportunités pour les entreprises? Comment se les approprier? Comment mettre ça en place? Comment ça se matérialise? Je te pose la question parce que tu connais le sujet, du coup.
Ouais, non, mais en plus, c'était super intéressant d'échanger avec des acteurs et de voir ce qui a pu être mis en place. Il y a pas mal de choses qui me viennent en tête. La première des choses, c'est il y a des freins aujourd'hui sur le fait de partager de la donnée avec d'autres acteurs qui peuvent être parfois des concurrents. Et j'avais vu un projet que j'avais trouvé assez intéressant. Qui était le projet Mélodie. Donc c'était un programme cofinancé par l'Europe. Et en fait, c'était 10 laboratoires pharmaceutiques concurrents qui avaient une problématique. C'était en fait, pour faire de la recherche médicamenteuse, il faut beaucoup de données. Mais la donnée, c'est un peu le trésor de guerre. Et en fait, ils ont travaillé avec différentes sociétés, notamment, je pense à une société franco-américaine qui s'appelle Hawking. Ils ont travaillé sur du federate learning. Et en fait, le federate learning, pour faire simple, c'est au lieu de mettre toutes les données sur un serveur et de faire tourner ton algo, tu prends ton algo, tu le déportes sur le serveur de chacune des boîtes, ils font tourner et finalement, ils partagent uniquement le résultat en centrale. Et donc, quelque part, ils ont les poids. Qui permettent d'améliorer l'algorithme. Mais ça, du coup, tu peux l'imaginer pour la santé, mais tu pourrais très bien l'imaginer dans le domaine du marketing ou autre. À mon avis, c'est totalement reproductible à partir du moment où tu as des données sensibles que tu pourrais finalement, par ce biais-là, finalement, quand même exploiter une forme de partage. Et puis après, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est j'avais échangé avec Eric Fantin de la Software République. Donc la Software République, c'est Renault qui finalement se met en partenariat avec différents acteurs comme Thales, comme SFT Electronics, comme Atos, enfin, il y en a 5 ou 6. Et ce que j'avais trouvé intéressant en échangeant, c'est que Ben oui, dans certains cas, ça peut être intéressant de faire en interne, si tu as le budget, les ressources, la techno. Mais si tu n'as pas tout, ben peut-être que ça peut être intéressant finalement de faire de l'open innovation et de s'ouvrir à d'autres acteurs, parce que finalement, tu vas avoir une part du gâteau derrière que tu n'aurais peut-être pas pu avoir sinon. Et donc là, ce qui est intéressant dans l'échange, c'est que des fois, quand tu veux faire de l'open innovation avec des gens, et moi ça m'est arrivé hein, de dire bah, j'échange, je fais des entretiens, des 30 minutes avec des acteurs, je dis bah, on échange, je fais synergie. Mais le problème, c'est que quand tu dis j'échange, je fais synergie, bah, parfois il bah, n'y a rien de concret derrière et tu crantes pas. Donc tu as l'échange, tu reviens, mais après il n'y a rien qui se passe.
Synergie,
Ce qui était
pardon,
un...
je t'interromps. Qu'est-ce que c'est, synergie?
Bah, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, quoi.
Ah, ok, je pensais que c'était une plateforme qui permettait.
Non, c'était pas une
Ok.
affaire, c'était vraiment d'un point de vue relationnel.
Ok, d'accord.
Ouais. Essayer de trouver quelque chose à faire ensemble. Mais juste un échange comme ça sur qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble d'un point de vue potentiel, des fois ça ne compte pas suffisamment. Donc ce qui était intéressant, c'est que là, en l'occurrence, le public me disait, c'est qu'ils ont essayé de cranter au début sur un cas d'usage, en disant bah, on a un cas d'usage sur bah, demain, la voiture, c'est finalement un gros objet connecté, on va récupérer plein de data. Bah, peut-être que sur la data, on pourra la vendre à des acteurs territoriaux ou autres. Et donc, à partir du moment où tu as un cas d'usage initial à proposer, bah, ça peut être intéressant pour démarrer un échange. Alors, en tout cas, déjà, je n'ai peut-être pas totalement fini, mais du coup, ça te permet d'avoir quelque chose à proposer et finalement d'avoir derrière une pièce à casser sur laquelle tu es potentiels partenaires peuvent se dire, ah ouais, ok, ça peut être intéressant de faire quelque chose ensemble.
Donc en fait, on s'adresse principalement à de l'industrie finalement. En tant que PME, c'est peu probable, non? Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, tout dépend ce que tu fais avec la donnée. Enfin, parce que là, effectivement, je t'avais un exemple industriel avec un objet connecté, mais l'objet connecté, enfin, la voiture en tant qu'objet connecté, donc finalement en tant que collecteur de données. Donc après, si tu collectes de la donnée sur un autre, dans une autre thématique, tu peux aussi en faire quelque chose derrière. Par exemple, je vois tout ce qui est tout ce qui est retail. Finalement, ils captent de la donnée et maintenant ils font du retail média, c'est-à-dire qu'ils vendent finalement de la donnée un peu comme un Google ou autre. Et du coup, ça devient un autre métier. Donc, il y a peut-être finalement, on a les PME elles posent potentiellement aussi de la donnée ou potentiellement des connaissances qui leur permettraient de rentrer dans une co-innovation avec d'autres acteurs. Parce que la problématique parfois, c'est que soit tu as la donnée, mais tu ne vois pas les cas d'usage ou tu n'as pas la capacité à la traiter parce que bah, tu as une problématique de talent. Donc, peut-être que de se mettre avec d'autres acteurs, tu résous ton problème parce que. Finalement, bah, toi, tu apportes les données, l'autre, il apporte peut-être des connaissances, et à plusieurs, bah, on va plus loin.
C'est beau.
Ouais.
Super. Merci David. Est-ce que tu aurais un livre à recommander, un livre qui t'a marqué?
Ouais, bah, j'ai eu le temps de réfléchir parce que tu as posé la question tout à l'heure. Petit piège. Non, mais quand j'ai rédigé ma thèse professionnelle, je pensais notamment à deux livres sur la data. Il y avait le livre de Mick Levy, Sortez vos
Vous
données du
donner du
frigo,
frigo, ouais. Super cool.
fameux livre rouge.
Ouais.
Voilà, donc ça, c'est un livre qui est vraiment bien et qui est intéressant. Après, il y avait aussi sur la data le livre de Gauthier Vasseur qui s'appelle Data Pionnier, qui est pas mal, qui est intéressant aussi. Moi, j'avais ces deux livres-là. Et après, on peut tout. Voilà, il y a des livres qu'on peut regarder sur l'UX aussi qui peuvent être intéressants. Parce qu'une chose que je n'ai pas évoquée tout à l'heure sur la co-innovation, c'est que ce que j'ai vu, c'est que souvent les acteurs se mettent en musique quand ils sont dos au mur. Il y a des projets comme ça, comme Catena X sur la chaîne de valeur automobile ou d'autres phénomènes. Où on voit que c'est les acteurs voilà, se mettent en route quand ils sont au mur. Mais on pourrait très bien imaginer, anticiper, avec peut-être du design fiction et voir les futurs probables. Donc, ça, c'est un sujet qui peut être intéressant à regarder aussi.
Super. Merci beaucoup, David, pour cet échange. Je suis vraiment
Ouais,
ravi
merci à
qu'on
toi.
ait finalement fait cet épisode. C'était
Ouais,
super
en tout cas,
intéressant.
merci Romain pour ça, pour la proposition. Puis merci à tous d'avoir écouté ce podcast.
Avec grand plaisir. Salut, David.
Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des besoins en données.
Sur LinkedIn ou sur la plateforme, ou les deux?
Bah, peu importe. Moi, je suis normalement le contactez-nous sur openyourself.fr, mais je suis aussi dispo sur LinkedIn.
Top. Salut David.
Salut, merci Romain, ciao.
Cette émission a été préparée avec Nicolas Fronto et Raphaël Pazoumian pour le mixage. Retrouvez-nous sur fromtheinside.com.